Bon, donc de quoi va-t-on parler en parlant des traces des premiers hommes, des migrations des hommes de la préhistoire? Eh bien, on aurait pu appeler ça la conquête des latitudes, puisque finalement, ce qu'on va voir, c'est comment depuis les tropiques, nous, singes tropicaux, on a fini par occuper tous les continents. Là, je reviens du carrousel de la connaissance, voilà, la conquête de l'espace, voilà. Celui-ci aurait vraiment pu être la conquête des latitudes. Alors, pourquoi faire cette présentation? Et pourquoi parler d'immigration? Ben, l'immigration, aujourd'hui, c'est un sujet un peu sensible. Et quand on se pose un peu la question des origines des migrations aujourd'hui, au XXIe siècle, ben, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui émigrent à cause de guerre, à cause de conflits armés. On a des gens qui émigrent à cause de famines, qui généralement sont liées à de la spéculation. On a des gens qui émigrent parce qu'ils cherchent un emploi, par exemple. Et puis, pour la grande bourgeoisie, il y a une migration spécifique, c'est l'exil fiscal. Voilà. Mais bref, ce qu'on voit, c'est qu'au XXIe siècle, ces migrations, eh bien, elles sont tout à fait liées au capitalisme en tant que tel. Et pourtant, dans ce même monde capitaliste, les migrants, on leur jette des pierres en se disant, si ils s'installent par chez nous et qu'ils travaillent, ils volent du travail. Et s'ils s'installent par chez nous et qu'ils bossent pas, c'est des fainéants. Bref, dans tous les cas, ce seraient des victimes et ils seront montés du doigt. Pourquoi ils sont montrés du doigt comme ça? Eh bien, parce qu'il y a cette pensée qui finalement est une pensée bourgeoise, que nous sommes des individus en compétition les uns avec les autres, voire même, si on reprend un vieux dicton, l'homme est un loup pour l'homme. Donc dans notre nature profonde, soi-disant, on voudrait absolument marquer sa supériorité, écraser les autres, etc., etc. Eh bien, en faisant cette petite présentation, en montant un peu le succès, les origines du succès de nous Homo sapiens et de nos ancêtres humains, eh bien, de montrer que finalement, cette idée de compétition, de domination qui serait propre, qui serait dans notre nature, c'est une bêtise. Et que justement, la clé de notre succès, nous, en tant qu'humains, c'est justement la coopération. Alors, on va partir des tropiques et donc voir comment finalement on a pu s'implanter un peu partout, ce qui a fait notre succès. Et donc, comme on va parcourir quelques millions d'années, on va parler un petit peu de biologie, pas trop, hein, vraiment un tout petit peu, mais quand même rappeler quelques éléments de base. Bon, déjà, l'évolution, nous Homo sapiens, on n'est pas une espèce finie. Vous êtes des mutants, je suis un mutant, parce que ben, mon patrimoine génétique, il a subi des mutations par rapport à la génération précédente. Même chose pour vous. Donc, on n'est pas une espèce finie, on n'est pas quelque chose d'abouti, on est toujours une espèce toujours en train d'évoluer. Et il en est comme ça pour tout le monde du vivant, que ce soit des animaux, des végétaux, à chaque génération, ça mute, c'est inéluctable. Et donc, ça veut dire, finalement, une faune, une flore qui n'arrête pas de se modifier. Alors, elle se modifie aussi pour une autre raison, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle, qu'on pourrait simplement appeler ça les contraintes environnementales. Eh bien, une espèce, elle peut être performante dans un milieu, dans une niche écologique, par exemple, dans son environnement. Mais ces environnements, ils sont très, très variés. Il peut y avoir différentes contraintes. Très chaud, très froid, humide, etc., etc. Tout ça, c'est des contraintes différentes. Merci. Je vais pas m'épuiser, mais OK.
Ça partait d'un bon sentiment, je te jure.
Ça va. Tu as loupé l'ordinateur, c'est bien. Attends. Non, mais... Voilà, on va la mettre derrière. Hein. Mais donc, une espèce qui n'est plus adaptée à un environnement, qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus, c'est simple, elle disparaît. Et d'autres vont prendre sa place. Alors il y a ce vieux schéma. Imaginons la savane. Et cet environnement se modifie, notamment par exemple avec des arbres qui poussent de plus en plus haut. Alors, on voit des girafes, elles ne se sont pas dit « Ah, les arbres sont de plus en plus haut, mon cou va pousser et ainsi je vais pouvoir me nourrir ». Pas du tout. Ce sont des mutations génétiques qui font que certains groupes ont eu un cou plus long, par exemple, peuvent avoir, c'est un peu l'idée générale, ont un cou plus long. Et du coup, elles sont plus performantes que celles qui ont gardé le cou de base. Bon, ça c'est un peu grossier, mais c'est pour vous donner l'idée. Simplement, celle qui a le cou long, elle peut manger là, elle peut manger à tous ces niveaux-là. Celle qui est là, elle peut manger qu'à ce niveau-là. Du coup, eh bien, elle sera moins performante. Elle va s'éteindre. Alors, Il y a autre chose concernant ces contraintes environnementales à avoir en tête, c'est que plus on monte dans les latitudes et plus ces contraintes, elles sont féroces. On pense par exemple à un milieu comme l'équateur. On a finalement un climat qui est relativement constant sur toute l'année. Si au contraire on va au pôle, on a presque 6 mois de faible ensoleillement avec 6 mois de pénombre. Et puis il y a beaucoup. C'est simplement une question d'axe de rotation de la Terre, de position par rapport au Soleil. On le voit simplement là. Plus on s'éloigne de l'équateur, et plus, par exemple, pour une même quantité d'énergie venue du Soleil, il y a une plus grande surface qui est couverte. Bref, moins d'ensoleillement, etc., etc. Ça veut dire plus froid, et ça veut dire des espèces hyper spécialisées. Qui peut survivre au pôle Nord, par exemple? On pense aux ours. Alors l'ours polaire, c'est un animal extrêmement performant dans son environnement, tout comme le panda. Dans les deux cas, c'est des ours, mais c'est des environnements tout à fait différents. Le pôle Nord, les forêts de bambou, si cet environnement est modifié, eh bien l'espèce, elle est menacée également. On connaît l'histoire pour ces deux espèces-là. Eh bien, il en est un peu comme ça pour l'essentiel du monde du vivant, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce, un groupe d'espèces, de grands singes venus d'Afrique, qui ont fait un peu différemment. Eux, leur atout, c'est pas d'avoir des grosses griffes, d'avoir une super fourrure, double peau, tout ce qu'on veut, rembourré, etc. Non. Ils peuvent être tout nus, peuvent être habillés s'ils vont dans le froid, etc. Ce groupe de grands singes, c'est ce qu'on appelle les hominines. Si vous regardez au-dessus de vous, vous avez des petites pancartes qui tournent. D'un côté, on a les grands singes africains qu'on connaît actuellement, avec le chimpanzé et le gorille, les paninés. Et bien, tout le groupe d'à côté, les hommes, les humains, donc il y a eu plein d'espèces humaines, le groupe des australopithèques, le groupe des paranthropes, etc. Tout ça, eux, ce sont les homininés. On va discuter de cela. Alors, on va en discuter, mais voilà, sur quoi on se base finalement? Imaginons qu'on soit omniscient, qu'on sache que voilà, telle espèce est l'ancêtre de telle espèce, qui a donné tel groupe, etc., que tel groupe a subsisté, que ce soit comme ça. Bref, on sache, on est la connaissance, l'étincelle, etc., qu'on soit omniscient. Bon, à vrai dire, déjà, si on considère que ce qui est conservé par la fossilisation, il n'y a déjà pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et ensuite, il y a le nombre de découvertes. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire que je peux la raconter là en 2015, sur base des connaissances actuelles. Et donc, je ne vais pas pouvoir vous raconter une histoire hyper précise. Roger a rencontré Raoul en telle année, ils ont eu tel succès, etc. Non, ça va être des grandes tendances que je vais essayer de vous expliquer. Et puis, ben voilà, maintenant, heureusement, on a la génétique, etc. On a d'autres données pour développer un peu cette histoire. Alors, elle commence, pour nos plus anciens ancêtres connus, il y a 7 millions d'années, avec Rorine et Toumaï. On les connaît pas trop, donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'est juste quelques individus, on sait pas en dire beaucoup. Mais dès 4,5 millions, ce qu'on voit en Afrique, c'est qu'il y a un groupe qui est assez performant, qui sont les Australopithèques, et qui vont durer bien longtemps, jusqu'à 1,8 million. Alors on connaît différents groupes d'Australopithèques, et ce qu'on voit, les Australopithèques, là sont les points rouges, c'est que on les trouve déjà d'un côté à l'autre de l'Afrique. Alors pourquoi ils sont tous là? Pourquoi il y a un gros nuage de points rouges là? Je parlais tout à l'heure de la conservation. Bon, c'est là que ça conserve le mieux. C'est là qu'on va chercher les fossiles, donc c'est là qu'on les trouve aussi. Voilà. Mais voilà, par exemple, ça c'est un individu d'il y a 7 millions d'années. Voilà, tout à fait en dehors. Donc il faut vraiment imaginer une dimension panafricaine dès 4,5 millions. Et pourquoi est-ce qu'on a tout d'un coup des Australopithèques qui arrivent, alors qu'ils sont originaires à la base des tropiques, qui arrivent à occuper l'Afrique d'un bout à l'autre? Alors l'Afrique à l'époque, c'est ce qu'on pourrait appeler un milieu en mosaïque. Tout à l'heure, je parlais de niche écologique, d'environnement. Eh bien l'Afrique à l'époque, c'est vraiment, oui, vraiment un milieu en mosaïque. La pleine forêt, de la forêt avec quelques espaces dedans, de la savane arborée, une savane humide, des oasis, etc. Bref, quelque chose de très contrasté. Et donc, ça veut dire que des espèces, eh bien, qui vont pouvoir s'adapter à différents milieux sans se porter, eh bien, préjudice les unes aux autres. Elles ne seront pas compétitrices. Alors, des australopithèques, c'est pas des singes qui se... Enfin, on est des singes, hein, qui se baladent à quatre pattes, etc. Vraisemblablement, il y a déjà toute une série qui ont une relativement bonne bipédie. Alors, ils sont pas capables de faire un marathon, hein, mais par exemple, ça, ce sont des empreintes de ce qu'on suppose être des australopithèques qu'on a découvertes à l'Italy. Et donc je disais, c'est des espèces non compétitrices. Alors c'est quoi des espèces compétitrices? Souvent quand on parle de la disparition d'une espèce, etc., parfois on a des théories un peu affolantes, les prédateurs les ont tous mangés, ils ont disparu. Bon, c'est un peu simpliste, surtout que dans ce cas-là, les prédateurs, après, ils n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, en vérité, c'est bien plus simple que ça. Ça, c'est un match qui a lieu actuellement. Donc à votre gauche, écureuil gris, et à votre droite, écureuil roux. Alors ils s'affrontent pour le moment dans un match à mort, sans même se mettre sur la figure. Ils font différemment. Ça se passe en Amérique du Nord. L'écureuil roux, vous le connaissez tous, grand consommateur de fruits secs. L'écureuil gris, son parent, même chose, sauf qu'il est également, un petit régime insectivore. Alors pensons à nos australopithèques qui ne sont pas compétiteurs, eux le sont. On les met dans un même milieu, que se passe-t-il? Eh bien, à partir du moment où il y a une nouvelle contrainte environnementale, j'en parlais tout à l'heure, comme par exemple la raréfaction des fruits secs, que se passe-t-il? Eh bien, nos populations d'écureuils roux, elles vont décroître. Ils ont du mal à encaisser le choc. Les écureuils gris vont avoir une population qui va être plus stable. Et donc, après, eh bien, ça tombe bien, écureuil roux lui a laissé la place, et écureuil gris va, à terme, supplanter complètement l'écureuil roux, qui disparaîtra de cette niche écologique. Il y est adapté, mais il y a une nouvelle espèce qui vient de s'installer sur les lieux, et qui est plus performante. Eh bien, nos australopithèques, ils en ont des compétiteurs. Ils sont essentiellement herbivores. Ils ont une petite tendance omnivore. Et ils en ont. Il y a plein d'herbivores, évidemment, en Afrique, déjà à l'époque. Eh bien, c'est pas grave. Ils vont inventer quelque chose. Ils vont innover. Ils vont développer quelque chose. Ils vont jeter les bases de quelque chose qui va être le succès. Eh bien, c'est en partie ce qu'on peut appeler la culture matérielle. La culture, c'est pas juste les dernières CD, les dernières sorties de disques à Noël. C'est pas juste tel concert ou tel artiste. La culture, c'est bien plus simple que ça. Quand on parle de culture matérielle, eh bien, c'est toutes les créations, toutes nos créations matérielles. Une fourchette, c'est de la culture, par exemple. Une chaise, c'est de la culture. Un vidéoprojecteur, c'est de la culture. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Culture matérielle. Et puis, ben, il y a également la culture sociale, l'organisation, une école, le fait de créer une école, une administration, un parti politique. Tout ça, c'est de la culture également, sociale. Eh bien, nos australopithèques, ils n'ont pas fait de parti révolutionnaire, communiste, tout ça, mais ils développent, ils jettent les bases de la culture matérielle. Et comment est-ce qu'ils s'en sortent? Ce qui explique leur succès, pourquoi ils sont là tout d'un coup, pouf, d'un bout à l'autre de l'Afrique. Voilà la première clé de leur succès, un bâton. Un bâton à fuir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un bâton à fuir, on va fuir dans le sol. Voilà. Donc en gros, on peut creuser un petit peu sous les végétaux, sous les herbes par exemple, sous les graminées, et aller chercher des parties enfouies, telles que des bulbes, des rhizomes, qui sont des parties très nutritives. Et donc on a un avantage sur nos compétiteurs qui, eux, se limitent à manger la partie émergée de la plante. De la même façon, avec un galet aménagé, on peut également exploiter de nouvelles ressources. Des carcasses, par exemple. Les australopithèques ont une tendance omnivore et ils charognent un petit peu. Alors, ils charognent, ben oui. Pourtant, ils n'ont pas les outils pour. On pense à un charognard par excellence, c'est la hyène. Elle a une mâchoire avec des muscles, quelque chose d'énorme. Je vais vous montrer son parallèle pour les herbivores dans pas longtemps. Elle a des dents pointues, elle perfore les os, elle a accès à la moelle. Elle est performante. C'est très très bonne charognarde, la hyène. Eh bien, les australopithèques, ils ont un autre moyen pour faire ça. Simplement, on n'a pas les moyens d'ouvrir la bête, d'aller casser les os comme ça directement avec nos propres dents. Eh bien, ils vont simplement utiliser des outils, comme par exemple, hop, des galets aménagés. Alors, les galets aménagés, c'est encore un peu un mystère. Donc, un galet, ça, c'est facile à trouver, on en trouve dans les rivières, duquel on retire des petits morceaux, qu'on va appeler ça des éclats. Alors, soit ils utilisaient directement ces éclats, on ne sait pas trop, ou ils utilisaient en tant que tel le galet ce que généralement on admet plus volontiers. Et avec un galet, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, quand on est face à une charogne, déjà, ça ne va pas être super pratique pour découper des beefsteaks. Par contre, on va pouvoir écraser les os, on va pouvoir accéder à la cervelle également. Alors, ça a l'air sale, mais c'est super nutritif, donc très intéressant. Bref, nos australopithèques, ils jettent les bases de la culture avec... Enfin, de la culture matérielle. Mais bon, des outils, c'est bien beau, mais ça suffit pas en soi. Donne-moi à manger. Voilà, ça marche pas. Un couteau, faut savoir s'en servir, etc., etc. Voilà, on a les outils. Après, il reste le mode d'emploi, quand même. Eh ben, ça, c'est un truc génial qu'on observe chez tous les grands singes, et donc chez nous aussi, quand même. C'est la coopération, c'est l'organisation. Les grands singes, alors on se plaît à croire qu'on n'est pas des singes, alors on va regarder curieusement les grands singes africains actuels, et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ils passent un temps fou, ils passent un temps fou à discuter entre eux, discuter, bon, ils tapent pas la discussion comme ça, mais ils règlent des problèmes entre eux. Ils n'ont pas des relations, moi et le reste du groupe, non, ils discutent d'individu à individu, ils ont des relations personnelles. Et quand il y a un souci, quand il y a un conflit dans un groupe de singes, tels que des chimpanzés ou des bonobos, ils passent un temps fou à essayer de trouver une solution, à se câliner une fois qu'ils sont d'accord. Bon, évidemment, l'image typique, c'est les bonobos qui passent un temps fou à se câliner les uns les autres. Eh bien, c'est pas anodin. Ce qui fait la force d'un groupe de singes, c'est justement sa coopération, le fait qu'ils soient performants en groupe. Ils ne sont pas performants individuellement, ils sont performants en groupe. Alors, nos australopithèques, ils vont laisser la place à deux grands groupes qui sont ce qu'on suppose être les premiers hommes, Habilis, Rudolfensis, etc., et les paranthropes, qui vont vraiment émerger à partir de 3 millions. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, ceux qui émergent par rapport à nos australopithèques, eh bien, nos australopithèques sont encore un peu liés au monde de la forêt. On le voit parce qu'au niveau de leur squelette, ils ont encore pas mal d'aptitudes au grimper, lâcher dans les arbres, etc. Nous, dans les arbres, bon, voilà, ils sont beaucoup plus performants que nous dans les arbres, par exemple, nos cousins actuels. Vers 3 millions, entre 3 et 2,5 millions, il y a un assèchement climatique. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, le monde de la forêt, il recule. Et donc, les gens qui sont, les espèces qui sont performantes dans le monde de la forêt, eh bien, elles vont perdre un peu de terrain par rapport à des espèces qui seront plus performantes dans des milieux un peu plus ouverts, une savane arborée, par exemple. Et donc, deux grands groupes, je disais, les paranthropes et les premiers hommes. Vous voyez, ils occupent toujours l'Afrique, pour le moment, reste cantonné à l'Afrique. Alors, c'est qui les paranthropes? Tout à l'heure, je vous parlais de la hyène qui était hyper performante, avec des gros muscles pour les mâchoires. Eh bien, voici un paranthrope, un moulage de crâne de paranthrope. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit d'énormes trous ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez une idée? On est les mêmes en plus petit. C'est là que les muscles d'attache de nos mâchoires passent. Alors, nous, on a des petits trous. On n'a pas une mâchoire très puissante. Les hyènes et les paranthropes, là, ils ont des gros trous, pourquoi? Parce qu'ils ont une mâchoire super forte, super... voilà, en fait, eux, ils ont un casse-noisette intégré. Contrairement à la hyène, eux, ce sont des herbivores hyper spécialisés, ils ont d'énormes molaires en dessous, et donc, la savane avance, la savane, c'est pleine de graminées, les graminées, c'est pas très bon pour les dents, on a du mal à les ouvrir, etc., en tirant la substance nutritive. Eux, pas de souci, voilà, ils ont le casse-noisette intégré, et donc, ce sont... C'est un groupe d'espèces qui est hyper spécialisé, des herbivores hyper spécialisés, qui sont très performants dans un milieu qui s'ouvre, sur lequel la savane prend le pas. À côté de ça, à la même époque, on a Homo habilis et d'autres du même acabit. Alors lui, c'est pas du tout un herbivore hyper spécialisé. Et pourquoi est-ce qu'il est performant alors ? Homo habilis. On dit Homo habilis, c'est l'homme habile. Franchement, c'est un abus de langage. Si on regarde le squelette en dessous du crâne, il n'est pas beaucoup plus habile que les paranthropes ou même que les derniers australopithèques. Il est plutôt habile de sa tête. Et il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que nos cerveaux, ils laissent une empreinte dans notre boîte crânienne. Et les empreintes crâniennes qu'on a d'habilis, on voit notamment l'apparition d'une aire du cerveau qui est l'aire de Broca. Et c'est quoi ça, cette aire? Eh bien, c'est une aire qui est associée à la compréhension du langage. Donc, Voilà, quand je disais tout à l'heure, les singes, ils coopèrent, ils communiquent, un outil, ça ne fonctionne pas tout seul, eh bien on voit que cette tendance, elle va se marquer de plus en plus avec l'évolution, et qu'en fait, tout ce qui favorise la coopération, la communication, est sélectionné par l'évolution, en fait. Simplement, j'ai un argument choc, le langage articulé, c'est le fruit de la sélection naturelle. Bah oui, voilà, il y en a, ils ont des grosses griffes, nous on parle, voilà. Donc tout ce qui favorise la coopération, etc., est favorisé. Alors, Habilis, il est donc performant, il est performant en groupe, et c'est bien parce que les modes d'emploi, c'est plus facile à transmettre, etc., etc. Notamment, il va aussi développer une tendance au charognage, donc on l'a vu, c'est pas le premier, mais lui, il va découper carrément, avec des éclats, il va découper carrément les steaks, lui, sur les charognes. Alors ça a l'air anodin comme ça. Eh bien, en fait, ça a un impact assez sympa, c'est que la consommation de viande, ça favorise l'encéphalisation, ça donne un plus gros cerveau. Alors, ça ne marche pas avec un individu, vous pouvez vous taper 5 kg de barbac par jour, votre tête ne va pas gonfler. Sur un individu comme ça, ça ne se marque pas, mais c'est une tendance évolutive, ça se marque à travers un groupe, une espèce. Donc, la consommation de viande, c'est un des facteurs d'évolution aussi de cette lignée, qu'on suppose, lignée humaine, on suppose que c'est notre ancêtre. Mais Habilis va aussi perdre du terrain, ainsi que les paranthropes, parce que cet assèchement dont je vous parlais tout à l'heure, ce refroidissement, eh bien, il va continuer à s'accentuer. Notre savane, elle va continuer à avancer, la forêt continue de reculer, et puis surtout, il va y avoir également un autre compétiteur qui va pointer le bout de son nez. C'est Homo ergaster, qui est présent essentiellement de 2 millions à 1 million. Lui, c'est notre ancêtre sur certains. Et lui, c'est la superstar du moment. Ça, c'est l'humain. On peut parler d'humain. Hyper performant à l'époque. Alors, pourquoi c'est un humain? Eh bien, lui, il a un squelette vraiment similaire au nôtre. Bipède parfait. Gracile. Alors je dis bipède parfait, c'est pas qu'il y a différents stades de bipédie et quand je me relève et ça y est, ça va mieux, maintenant je suis performant. On a une bipédie qui est forcément adaptée à notre activité. Ergaster dans les arbres, il n'est pas performant. Mais là au sol, dans la savane, il est performant. Et avec une bipédie similaire à la nôtre, eh bien, il est capable de chasser et donc vraiment d'être un véritable chasseur. On a vu les précédents, ce sont surtout des charognards. Eh bien, lui, c'est un véritable chasseur. Et en plus de ça, pour ne rien gâcher, on pense que c'est sans doute le premier groupe, la première espèce qui a perdu ses poils. Il a perdu ses poils, oui, alors il a froid en hiver. Et maintenant, il y a un autre impact qui est assez intéressant. Nous, on est allongé, on se tient debout, on est bipède. Ça veut dire que, par exemple, un animal quadrupède, eh bien, on a, pour une même masse, on a une grande superficie par rapport... par rapport aux éléments extérieurs, au vent, etc. Oui, et alors? Eh bien, vous pensez par exemple à un quadrupède, comme un chien par exemple, qui va commencer à courir, à faire le fou. Ben, après un bout de temps, il sera fatigué. Il va se coucher sur le côté, il va sortir la langue et ça va fumer. Il essaye d'évacuer la chaleur. Bon, nous déjà, on est plus performant pour la perte de chaleur, et en plus, à partir du moment où on a perdu l'essentiel de nos poils, on évacue la chaleur encore plus vite. Ça veut dire qu'on est performant pour faire des efforts prolongés. On peut chasser, on est extrêmement performant. On est devenu un prédateur et non plus simplement un charognard. Et en plus de ça, Ergaster, il a les clés en main pour aller faire un petit tour du côté de l'Europe et de l'Asie, vers des latitudes de plus en plus froides. Alors, vers 1,6 million, 1,7 million, on a les premières traces de feu, d'usage du feu. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tous sortir leur briquet et vous allumer un feu. On en est encore loin, ce sera plutôt vers 500 000 ans. On a les premières traces d'usage du feu quand même. Et puis, on a l'invention du biface. Donc, un outil avec une pointe, de côté, tranchant, essentiellement tranchant. Et donc, cet outil, c'est le couteau suisse de la préhistoire. Avec ça, on peut gratter, racler, scier, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, Ergaster va, plutôt que de simplement mettre à contribution son environnement, il va pouvoir le transformer lui-même. On peut faire des campements aussi. On peut faire des campements, on peut se protéger des éléments, on peut aller vers des latitudes plus au nord, par exemple. Et il y a un autre élément intéressant avec ces campements. C'est quoi la différence entre un campement et un nid ? Dans un nid, comme par exemple les chimpanzés ils font leur nid, ils vont chasser, ils mangent dans leur coin, enfin presque dans leur coin, puis ils montent dans leur nid, ils dorment. Eh bien, un campement, outre que ce soit un lieu où on dort, c'est aussi un lieu où on partage la nourriture. Mais c'est aussi un lieu où on peut amener la nourriture pour les autres. C'est pas juste, t'as ramené 75%, j'ai ramené 25%, on fait 50-50. Non, non, non. Il y a un autre impact. Imaginons par exemple les femelles. Les femelles, les mammifères femelles, d'une façon générale, le moment de la gestation, c'est un moment toujours délicat à travers le règne animal. C'est des proies plus faciles. Et en plus de ça, elles ont justement plus de mal à aller chercher de la nourriture alors qu'elles ont deux personnes à nourrir. Et bien, à partir du moment où vous avez l'échange de nourriture, ce lieu, le campement où on va chasser et on amène aux autres, et bien, les femelles, elles peuvent passer des gestations plus tranquilles, plus sereines. Elles peuvent même d'ailleurs avoir des gestations plus longues. Et ça tombe bien parce que, de nouveau, chez les mammifères, plus on a une gestation longue, plus on a des individus, d'ailleurs, s'associer à des individus qui sont biométriquement en taille, etc., plus importants, des têtes plus grosses. La souris, par exemple, c'est d'une gestation autour de 20 semaines, ça vit 2-3 ans. Un éléphant, c'est une gestation qui tourne plutôt autour de 22-24 mois, ça vit 60 ans, voilà. Eh bien, c'est la même chose ici, des gestations plus longues, eh bien, des gestations plus sereines qui sont le résultat finalement de la coopération entre individus, eh bien ça peut aussi avoir un impact biologique. Mais simplement, si on peut me nourrir pendant que j'élève mon petit, ça veut dire que je peux y passer plus de temps. J'ai pas besoin de passer la moitié du temps à aller chercher ma nourriture et lui apprendre entre deux comment on vit dans la vie. Non, 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 je peux y passer plein de temps. Ça veut dire, eh bien, qu'il y a des périodes de socialisation qui sont plus importantes pour les jeunes singes. Eh bien, un exemple tout bête, mais aujourd'hui, dans notre société, c'est quoi la période de socialisation? On a institutionnalisé ça, c'est l'école, par exemple. Voilà, on a beaucoup d'expériences à transmettre aux jeunes individus. Ben voilà, on a créé une institution pour le faire. Donc, toujours culture matérielle, sociale. Et donc, notre ergaster, avec ses campements, son usage du feu ponctuel, son biface, et le fait que ce soit un chasseur, un parfait bipède, eh bien, on va lui voir la sortie d'Afrique. Ça se passe, on suppose, vers 2 millions d'années. Et c'est lié, de nouveau, à ces changements climatiques, mais aussi à son aptitude à évoluer dans des milieux un peu plus froids. On a une période où, avec ce refroidissement, on a pas mal de troupeaux qui migrent, notamment des troupeaux qui vont vers l'Eurasie. Eh bien, lui, il va quitter l'Eurasie également. Et il suit son beefsteak, ergaster. Et alors que pendant des millions d'années, ce groupe domininé de grands singes africains s'était justement cantonné à l'Afrique, eh bien en 100 000 ans, 200 000 ans, on va voir ce groupe évoluer d'un bout à l'autre de l'Eurasie. Alors, d'un bout à l'autre, en fait, c'est pas si étonnant que ça. L'essentiel des niches écologiques sont marquées surtout par les latitudes. Et donc, ici, on a plus ou moins des niches écologiques semblables. Donc s'il est apte à évoluer dans ce milieu-ci, il sera également apte à évoluer dans celui-là. Donc ergaster, c'est vraiment l'explosion quand même de l'espace. Il repousse vraiment les horizons. Ça veut dire beaucoup plus d'environnements qui peuvent être exploités. C'est tant mieux pour la démographie. Alors, ergaster va évoluer dans des groupes, dans un vaste groupe qu'on appelle les erectus, dans lequel il y a plein de sous-espèces, etc. On ne va pas trop s'embêter. Mais on va quand même se demander pourquoi, finalement, ergaster, qui a l'air si performant, ça va donner plein d'autres petites espèces après lui. Et donc, dans notre groupe d'erectus, qui continue à monter dans les latitudes, ça, c'est par exemple, il y a 800 000 ans en Angleterre, pas de souci, tranquille. Mais on ne s'est pas resté tout le temps en Angleterre. Ça, ce sont justement des empreintes de pas fossiles qui viennent d'Angleterre à Pittsburgh. Mais on ne sait pas tout le temps y rester. On sait y aller tant qu'il fait plus ou moins bon, tant qu'ils sont dans un stade interglaciaire. Là, nous vivons une période interglaciaire. Avant nous, il y a eu un stade glaciaire. Après nous, il y en aura encore. Et ça alterne comme ça depuis un bon bout de temps. Eh bien, depuis 1,6 million, avec ces refroidissements qui s'accentuaient de plus en plus, eh bien, depuis 1,6 million, on a sans cesse ce cycle glaciaire-interglaciaire, mais ça a une énorme conséquence au niveau biologique sur l'évolution d'espèces différentes. Imaginez par exemple que nous soyons dans une période interglaciaire, ça peut être dur, on est dans une période interglaciaire, on peut se balader jusqu'en Iran à pied peut-être. Est-ce qu'on sait aller à Java à pied? Non, on ne sait pas. Pourquoi? Ben parce qu'on a des bras de mer. Et d'un autre côté, par contre, pour se balader dans le nord de l'Europe à pied, il n'y a pas de souci. Il y a les montagnes, ok, d'accord, mais on sait passer d'une vallée à l'autre sans trop d'encombre. Maintenant, passons à une période glaciaire. Que se passe-t-il? La température moyenne de la Terre chute de quelques degrés. Il n'en faut pas spécialement beaucoup. Il y a une énorme masse d'eau qui est retenue dans les océans, qui va être justement retenue par des glaciers qui vont se former au nord. Et ça veut dire que le niveau de l'eau va baisser, mais il peut baisser assez terriblement. Avec les maximums glaciaires qu'on connaît pour le moment, le niveau de l'eau pouvait être jusqu'à 120 mètres plus bas que maintenant. Alors 120 mètres plus bas, ça change complètement la forme des continents. Ça veut dire qu'on peut aller à Java à pied. Ça veut dire qu'on peut faire Tokyo-Séoul sur les mains. Par contre, si on monte plus au nord, dans les vallées dont on parlait tout à l'heure, eh bien, on risque d'avoir des morceaux de continents qui sont isolés les uns des autres justement par ces glaciers qui s'étalent depuis le nord. Donc ça veut dire que finalement, on a des environnements, des niches écologiques qui apparaissent, dont les frontières s'ouvrent et se ferment sans cesse, et ça va créer des isolats génétiques. Donc des espèces, des groupes d'espèces, des groupes d'individus qui vont se retrouver un peu limités, et donc qui vont se reproduire entre eux, et donc ça va freiner un peu les échanges génétiques, et donc ça va donner lieu à différentes dérives. Alors on va distinguer quand même simplement deux grands groupes. D'un côté on va mettre l'Asie, avec Erectus, un squelette bien ossifié, et puis un qui ressemble, qui tient encore un peu plus quand même d'ergaster, Heidelbergensis. Bon, c'est un nom à coucher dehors, simplement ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'ancêtre commun de Néandertal et de nous, Homo sapiens. Alors, nos Erectus, ils sont performants parce qu'ils continuent à développer cette culture, notamment avec le biface, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, maintenant on a des bifaces qui sont symétriques, qui sont parfaits. On a plus de tranchants également, ça tranche beaucoup mieux que les précédents. Eh bien, simplement, on peut se dire simplement, d'un point de vue technique, c'est peut-être mieux, mais cette recherche de symétrie, est-ce que ça indique pas qu'il y a un autre développement, quelque chose de plus conceptuel derrière? Tiens, il commence à faire des trucs symétriques, alors que, bon, votre couteau, il est symétrique, il va pas couper beaucoup plus pour autant.
Est-ce que ça ne permet pas juste d'utiliser l'autre face pour utiliser?
Ça peut permettre d'utiliser l'autre face, mais de l'autre côté, on avait aussi deux faces. Il était juste pas très symétrique. D'un autre côté, l'autre, il y avait encore une zone qui n'était pas taillée. Bon, ça évite de se couper la main aussi. On peut trouver plein de raisons. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils sont systématiquement, ils deviennent de plus en plus symétriques. Et donc, ce qui se marque également, c'est que cette transformation de l'environnement, avec les campements qui commencent à se propager à partir de 500 000 ans, d'ailleurs, enfin, il y a des campements, on les retrouve systématiquement avec l'usage du feu un peu partout, et cette transmission qui est toujours marquée de génération en génération. On va en discuter, on peut en discuter après. Tout ça pour donner lieu à deux grands groupes. Il y en a plus, mais on va se contenir à deux lignées humaines, Néandertal et Sapiens. Alors Néandertal, on le connaît bien en Europe, c'est un peu le gars du coin. Il est présent d'ailleurs en Europe depuis 700 000 ans, mais bon, il ne se cantonne pas à l'Europe, à vrai dire. Il y a encore également le Proche-Orient, un petit peu en Asie. Et Néandertal, on dit souvent c'est l'homme du froid. Il est petit et râblé comme un esquimau. Alors c'est vrai que être plus petit, etc., ça aide, ça rend plus performant dans un environnement froid. Tout à l'heure, on parlait de la perte de chaleur, le fait d'être bien allongé, d'avoir perdu ses poils. Là c'est le contraire. On est dans un environnement froid. Au contraire, on a envie de perdre le moins d'énergie possible. Mais c'est pas uniquement l'homme du froid, Néandertal, il a connu plein de climats différents, des stades glaciaires, des stades interglaciaires. Donc, il a été performant dans ces différents climats. Et Néandertal, on voit que l'aspect culturel se développe de plus en plus, que ce soit d'un point de vue justement purement matériel ou plus dans ce qu'on peut avoir de mythologique, d'idées de, dans ce qu'on peut imaginer. Je parlais juste avant, est-ce que le biface, il y a quelque chose de conceptuel? Je vous laisse juger. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Néandertal enterre ses morts. Alors, enterrer ses morts, c'est pas anodin. C'est pas juste, je fais un trou, on y met un membre du clan pour éloigner les charognards, etc. C'est plus que ça, parce que Néandertal, quand il enterre ses morts, il y met également des objets, etc. Donc, il y a des croyances qui sont développées également à côté. C'est vraiment des sépultures, c'est pas une fosse commune. On voit également qu'au niveau de son outillage, Néandertal, il a développé quelque chose de vachement intéressant, dont se sont peut-être inspirés les patrons aujourd'hui, je ne sais pas. Il standardise ses outils avec ceci, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un éclat levallois. Alors c'est quoi? Jusqu'ici, on travaillait un bloc, on le taillait, on utilise le bloc qu'on a taillé. Que se passe-t-il? Avec Néandertal, il va prendre un bloc, il va commencer à le tailler dans un sens, dans l'autre, et puis seulement, il va retirer un éclat qu'il veut utiliser. Alors, pourquoi il se donne tant de mal? Eh bien, ça va lui permettre d'avoir des éclats dont la forme, elle est prédéterminée. Donc, quand il s'est attaqué à ce morceau de silex que j'ai dans la main, il savait qu'il allait le mettre comme ça en forme pour obtenir un éclat de cette forme-ci. Alors, cet éclat standardisé, eh bien, il va pouvoir en faire toute une série d'outils différents. Certains plus pour couper, certains plus pour gratter les peaux, etc., etc. Donc, d'une forme d'outil standard, eh bien, on va pouvoir faire des outils spécialisés derrière. Alors, notre Néandertal, on va le mettre dans le contexte dans lequel on aime bien le voir, en pleine période froide. Et qu'est-ce qu'il peut manger? Quel est son régime alimentaire dans ce cas-là? Dans une période, par exemple, dans un environnement tel que la steppe, ben dans la steppe, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a des lichens, etc. Mais l'essentiel des animaux, c'est soit des tout petits organismes, soit des grands herbivores, notamment le mammouth. Alors, est-ce que Néandertal chassait le mammouth? Ça fait un peu fantasmer, finalement, cette question. On se la pose toujours en partie, parce que le mammouth, quand même, avec la chasse à l'épieu, puisque Néandertal, c'est son outil de chasse, le mammouth, voilà, là j'ai le garrot, l'épaule du mammouth, faut pas rigoler, c'est quand même des sacrés bestiaux, les mammouths. On va pas aller le chasser tout seul dans son coin. Donc, si on le chasse, il faut être quand même organisé, en bande, performant, faut savoir avoir des consignes, etc. Bon, ce sont évidemment des bandes bien organisées, les hommes de Néandertal. Il faut abandonner un peu cette vision où nous, sapiens, on serait supérieurs à Néandertal en tout et pour tout. Non, Néandertal était très performant en Europe. Et pour ce qui est de l'histoire du mammouth, on s'est longtemps posé la question. Alors, on n'a pas trouvé encore de restes de mammouth avec la trace de chasse, etc., de Néandertal. Par contre, on a trouvé des éléphants antiques avec des pieux, justement, fichés dedans. Et le pieu était conservé. Donc ça, c'est absolument exceptionnel. Ça demande des conditions pour que ce bois se préserve qui sont ahurissantes. Donc, on pourrait imaginer éventuellement que Néandertal se soit levé un jour et pris son pieu, s'est dit ce soir, je me fais un bon gros beefsteak, je vais tenter les éléphants. Et lancer son épieu, l'éléphant soit parti avec, il se dit bon ben ça marche pas, on chassera pas de mammouth ni d'éléphant, et que comme par hasard on retrouve le dit éléphant avec son pieu. Bon, on peut imaginer ça, mais ça m'a l'air quand même un peu tiré par les cheveux. Donc vraisemblablement Néandertal chassait des très gros gibiers. Alors Néandertal, il va faire la rencontre d'un individu qu'on connaît bien, Homo sapiens, nous-mêmes. Et Homo sapiens, pendant que Néandertal était en Europe et gravitait un peu autour de l'Europe, eh bien, Homo sapiens, lui, il faisait un peu le tour du monde, en fait. Ça fait 110 000 ans qu'il cabote, donc de la navigation sommaire le long des côtes africaines, 110 000 ans. Il voyage, il occupe toute l'Asie. Il a même profité de certains passages entre l'Amérique et l'Asie, eh bien, pour s'installer d'un bout à l'autre de l'Amérique. On a des premières traces supposées vers 40 000 ans. En tout cas, vers 15 000 ans, c'est sûr que c'est occupé d'un bout à l'autre. Et puis, ben, vers 50 000 ans, il va même faire de la haute navigation. Quoi, des hommes préhistoriques qui font de la voile? Alors, je ne sais pas s'ils font de la voile, mais en tout cas, eh bien, vers 50 000 ans, Homo sapiens occupe l'Australie. Alors, on pourrait se dire, ces trois dudules qui ont dérivé sur un cocotier et qui ont abouti en Australie, peut-être bien, mais c'est quand même tout ce qu'il y a de moins probable, parce que pour pouvoir s'installer, pour pouvoir vraiment occuper un espace comme l'Australie, il faut qu'il y ait une population qui soit quand même conséquente. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, les grands singes, ils sont performants à partir du moment où ils sont en groupe, ils sont nombreux. Donc, trois individus, ou même deux individus, ça fait un peu Adam et Ève, mais en vérité, ça fonctionne pas. On peuple pas l'Australie comme ça. Donc, vraisemblablement, nos Homo sapiens, ils ont pris des embarcations et vers 50 000 ans, ils occupaient l'Australie. Et ils n'ont pas pu y aller simplement quand la mer était plus basse, parce qu'entre l'Australie et l'Indonésie, il y a un bras de mer profond, la mer de Timor. Donc voilà, il n'y a pas d'autre choix, ils ont navigué. Bon, ils occupent l'Afrique, ils occupent l'Océanie, ils occupent l'Asie, ils occupent l'Amérique. Évidemment, il fallait bien qu'à un moment ou l'autre, ils viennent pointer le bout de leur nez en Europe. Et donc, voilà, on a Sapiens qui rencontre Néandertal. Alors, je vous mets cette illustration, mais je l'aime pas trop, en fait, parce que on a Homo sapiens, évidemment, c'est nous, alors on l'a représenté, il est grand, il est svelte, il est bien fringué, voilà. Et puis on a Néandertal qui déboule à moitié tout nu, roulé dans sa peau, salut. Bon, cette vision, elle est un peu dépassée. D'ailleurs, l'auteur des illustrations l'a mise à jour, bien plus, voilà, c'est bien plus glorieux quand même pour Néandertal maintenant. Mais voilà, c'est un peu l'image qu'on avait de cette rencontre encore il y a 10-15 ans, à vrai dire. Hein. Alors, que s'est-il passé ? Ce qu'on sait, en tout cas, clairement, c'est que cette rencontre, nous, Homo sapiens, on déboule, les populations d'Homo sapiens, elles déboulent en Europe vers 40 000 ans. Ce qu'on sait, c'est que 10 000 ans plus tard, il n'y a plus de Néandertaliens. Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain ? Est-ce que ça s'est fait en 10 000 ans ? C'est bien difficile à dire, de toute façon. Est-ce qu'on a eu des contacts ? Est-ce qu'on a eu des rapports sexuels, etc., etc. Il y a un topo sur la question, d'ailleurs, 4% d'ADN de Néandertal, vous pouvez aller le voir, d'ailleurs, voilà. Je ne tranche pas, de toute façon. Mais, en tout cas, il y a un truc à souligner, c'est que si Sapiens, il a pu occuper tant d'espace, tant de continents, jusqu'à débouler également en Europe, et finalement prendre la place de Néandertal, c'est parce qu'il est performant, justement, du point de vue culturel, de sa culture matérielle. Et d'ailleurs, ces groupes de sapiens, ils peuvent également être compétiteurs entre eux. Pendant très très longtemps, Homo sapiens et Homo neanderthalensis, ils avaient la même culture matérielle. Ils utilisaient les mêmes outils, ils vivaient dans des milieux similaires, etc. Et puis, il y a eu des transformations au niveau de la culture d'Homo sapiens. Il a commencé, par exemple, à travailler sur des lames. C'est quoi des lames ? Eh bien, on reprend l'idée tout à l'heure de Néandertal qui fait des enlèvements, des éclats prédéterminés. C'est la même chose. On a un bloc de silex, on va le mettre en forme. Et de ce bloc, on va retirer un éclat allongé, on appelle ça une lame. Un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Ça va être, cette lame, le support de nombreux outils, tout comme Néandertal en pouvoir faire plein d'outils pour plein d'activités spécialisées à base de ça. Alors déjà, l'avantage le plus évident, c'est que c'est léger et pourtant j'ai beaucoup de tranchants avec des lames. D'ailleurs, si on regarde par exemple les premiers galets, surtout les premiers bifaces, on estime grosso modo qu'avec 1 kg de silex, on a 1 mètre de tranchant. Fin de la préhistoire, avec des lames, on est à 16 mètres de tranchant. Voilà. Avec la même quantité de matière, on fait des outils tout aussi performants. Et ces outils, on va les spécialiser. Par exemple, Homo sapiens va commencer à travailler de nouvelles matières. En faisant certains types d'enlèvements sur des lames, il a un outil qui est suffisamment robuste pour travailler l'os. Travailler l'os, c'est de nouveau une nouvelle matière à exploiter, notamment en période froide. Le bois, c'est pas monnaie courante, évidemment. Eh bien, on va travailler l'os. Par exemple, ma lame, je vais donc faire un burin, un outil pour travailler l'os. Je vais lui faire un pédoncule, et en parlant d'os, bah voilà, je vais me faire un manche. Voilà, hop. Ça a l'air de rien, de se dire, bon, ben ok, il y en a un qui fait des outils comme ci, l'autre fait des outils comme ça. Mais si on compare un mec qui récolte, qui moissonne son champ avec une serpe et un autre qui passe avec une moissonneuse-batteuse, il n'y a pas photo, celui qui a la moissonneuse-batteuse, il sera plus performant. Voilà, sa population va beaucoup plus en profiter. Donc, cette rencontre entre Néandertal et Sapiens, eh bien, Néandertal était tout à fait adapté à son environnement. Est-ce que Néandertal s'est dilué dans Homo sapiens ou pas? Voilà, la question est ouverte. Toujours est-il que c'est Homo sapiens qui subsiste à travers le globe, parce qu'il est culturellement plus dynamique. D'ailleurs, quand il débarque en Europe, c'est le moment où on voit fleurir, on voit presque aussi vite les premières représentations pariétales. Il va aussi changer ses habitudes de chasse. Plutôt que de chasser l'épieu, bon, imaginez, vous devez chasser un lapin, à l'épieu, vous allez courir. Ça tombe bien, les lapins, ça court bien. Donc, eh ben, Homo sapiens, vers la fin de cette période qu'on appelle le paléolithique, la période des chasseurs-cueilleurs, il va par exemple développer le propulseur, une sagaie qu'on peut projeter et qui permet, eh bien, de se nourrir en toute sécurité. Alors je ne sais pas si ça fait grand-chose pour les mammouths de nouveau, mais voilà. C'est un chasseur qui est performant et grosso modo, eh bien, Sapiens par rapport à Néandertal va exploiter ses ressources un peu mieux. Le travail de l'os par exemple, j'en parlais tout à l'heure, plus de ressources de matières premières, il va également pêcher, etc. Alors, à travers finalement ces petites histoires, on est parti des tropiques et maintenant on voit ces lignées humaines qui occupent l'ensemble des continents depuis 40 000 ans. Mais on peut quand même en retenir quelque chose. C'est que ce qui a fait finalement le succès des lignées humaines, contrairement à ce que la bourgeoisie veut nous mettre en tête, vous êtes en compétition les uns avec les autres, dans votre nature profonde, l'homme est mauvais, etc., etc. Ce sont des bêtises. Ce qui fait le succès des humains depuis toujours, eh bien, au contraire, c'est la coopération. Cette culture, cette faculté à s'organiser, à échanger, à avancer, eh bien, c'est à la fois le fruit de son évolution biologique, langage articulé, coopération, et la clé de son succès. Bref, vive le communisme. Vous avez des questions? Sinon, on ne sort pas. La coopération, forcée. Pardon? Donc, il y a eu le groupe des Erectus, on va dire. Alors, est-ce que Erectus a disparu? Erectus est notre ancêtre. Ce qu'on a vu, c'est que avec ces périodes glaciaires, interglaciaires, il y a eu ce que je parlais tout à l'heure des isolats génétiques. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de l'homme de Java, une espèce de pygmée en Indonésie. Eh bien, ça, c'est par exemple le fruit de dérives génétiques. En fait, ça, c'est un de nos derniers cousins, mais bon, il est tellement anecdotique dans les lignées humaines qu'on n'en parle pas trop. Et donc, Erectus, eh bien, nous sommes des descendants d'Erectus. Voilà. C'est vrai que je dis on passe de tel groupe à tel groupe. Mais voilà, là, c'est Erectus, eh bien, nous avons des ancêtres Erectus, voilà. Voilà, Néandertal est également, c'est un cousin. Hein. Si on regarde ici au-dessus, on nous voit là Homo sapiens dans l'espace. Sur la même branche, on a Néandertal. Et puis au-dessus, il y a les Erectus, voilà. Avec le précurseur d'Erectus, la superstar de l'époque, Ergaster, j'en parlais tout à l'heure, avec la sortie d'Afrique. Ergaster, c'est le précurseur des Erectus. Voilà. Parce que les Erectus, ils sont très variés, finalement. Mais voilà, il y a le groupe, enfin vraiment, l'Erectus classique qui fait la sortie d'Afrique, c'est Ergaster, voilà. Enfin, il apparaît, ce qui est fou, c'est qu'il apparaît vraisemblablement, cette espèce, on l'a définie en tant que telle vers 2 millions d'années, et pourtant, à 1,8 million, on a des premiers fossiles en Géorgie, mais ça fait presque 100 000 ans qu'on a déjà des restes d'outils en en France, etc. Donc, à partir du moment vraiment où il y a ces changements climatiques, avec la disparition, l'effacement des paranthropes, de Rudolf Encis, Abelis, etc., Ergaster les supplante à une vitesse phénoménale, en fait. Super performant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a juste mis Sapiens Neanderthal? À vrai dire, s'il fallait mettre tous les fossiles qu'on connaît, on pourrait faire Homo antecessor, Homo solo machin truc, etc. Ce truc serait un buisson. Et en fait, ça ne nous aiderait pas beaucoup, puisque c'est assez difficile de définir des espèces sur base de fossiles. Souvent, on a un fossile un peu différent, on a envie de dire celui-là, c'est l'intermédiaire entre tel et tel, ou c'est une nouvelle espèce. Et après, ça complique finalement le débat, la façon dont on en discute, même parmi les scientifiques. Hein, ils veulent tous avoir découvert une nouvelle espèce, mais on ne peut pas, on ne saurait pas. Pardon ?
Homo sapiens en Asie, quand il est en Asie, il a supplanté d'autres.
Est-ce que Homo sapiens, quand il débarque en Asie, il supplante d'autres espèces ? Alors c'est vrai qu'il y a une autre espèce en Asie, qui est notre cousin également à Néandertal et Sapiens, c'est Denisova. C'est le descendant asiatique de Erectus. Et donc de fait, Sapiens l'a supplanté également. C'est un peu la même histoire que Néandertal pour l'Europe. Voilà, il est plus performant. Mais il ne faut pas juste se dire qu'on a une espèce qui est plus performante qu'une autre. Au-delà de la biologie, c'est aussi vraiment une question de culture matérielle. Quand je parlais de Sapiens, à un moment qui commence à utiliser des lames, à travailler l'os, eh bien, c'est une nouvelle culture matérielle. On l'appelle l'Aurignacien. Avant, on parlait de Moustérien, c'était la culture commune à Néandertal et Sapiens. Eh bien, ces Aurignaciens qui débarquent avec leurs lames, leur travail de l'os, leur pêche, etc., ils ne vont pas juste supplanter en fait, les groupes de Néandertal, de Denisoviens, etc. Ils vont également supplanter les autres groupes de Sapiens qui ont une autre culture matérielle, qui ont toujours la culture matérielle d'avant. Donc, ce n'est pas juste une question d'espèce contre espèce, c'est vraiment les outils. La technologie, c'est bien la technologie, hein. Ben voilà, c'est ça aussi le clé. C'est vraiment une des clés fondamentales, la culture. La transmettre, la développer, voilà. Bon, ben, maintenant qu'on a fait la conquête des latitudes, il reste à faire la conquête de l'espace. Hein, donc, faudra tous aller au chapiteau scientifique, au carrousel de la connaissance, pour voir la suite de l'histoire, finalement. Voilà.